Jésus l'unique. Je vous invite à lire juste deux versets dans la première épître de Paul à Timothée, chapitre 2, les versets 5 et 6. L'apôtre Paul nous dit, et c'est une sorte de confession de foi, « En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Tel est le témoignage rendu au moment voulu. » Alors comment dire en quelques mots que Jésus et en quoi Jésus est l'unique ? Je veux donc partir de la manière dont les choses se sont découvertes au travers de la vie du ministère de Jésus. Et dire d'abord que le point de départ n'est ni l'argumentation, ni la polémique, ni même la plus fine analyse théologique. Au départ de tout, il y a lui, Jésus. Ce qu'il a été, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, ce qu'il a manifesté. C'est en le découvrant lui qu'on le découvre comme l'unique. Venez et voyez. C'est déjà ce que disait Jésus quand on l'interrogeait. On le trouve par la Bible. Lorsque la Bible nous parle de Jésus, c'est avec le souci de parler vrai. On n'enjolive pas lorsque l'on parle de Jésus. On a pleinement conscience qu'il y a suffisamment dans ce qui s'est manifesté en Jésus, comme le dit l'apôtre Jean, pour ne pas avoir à y rajouter des fables habilement conçues. C'est Pierre qui dit cela. Ceux qui ont décrit la vie de Jésus sont des témoins. Ils disent, ils redisent l'histoire. Ils dépeignent le Christ, comme le dira l'apôtre Paul, de telle sorte que sa personne et son œuvre parlent d'elles-mêmes. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire aujourd'hui encore, décrire, dépeindre, faire connaître, inviter à découvrir. Et c'est le premier point que j'aimerais souligner, c'est Jésus lui-même qui s'est manifesté et c'est lui qui doit se manifester aujourd'hui encore comme l'unique. Lorsque j'étais jeune, il existait un petit tract avec un texte absolument admirable sur Jésus. Son titre était « Le Christ incomparable ». On trouve aujourd'hui sur Internet des adaptations de ce texte, mais le texte lui-même, j'aimerais bien le trouver parce qu'il était très beau. Je vous livre une de ces adaptations, et c'est une des manières dont on peut tenter de dépeindre Jésus l'unique. Je cite, « Il est venu de Dieu, il est né d'une simple femme. Sa naissance est un fait qui confond la raison. Aucun savant sous le ciel n'a jamais pénétré le secret. » Il a revêtu la nature humaine afin de pouvoir racheter l'espèce humaine. Il est devenu fils de l'homme pour que nous devenions fils de Dieu. Il a vécu dans la pauvreté, grandi dans l'obscurité. Sa famille était sans fortune, sans influence. Pourtant, petit enfant, il a été sujet de terreur pour un roi. Jeune garçon, il a étonné et embarrassé les spécialistes de la loi de Dieu. Homme, il a commandé à la nature, marché sur les eaux, apaisé les flots, rendu la santé à des multitudes, ressuscité des morts par sa parole. Il n'a jamais écrit de livre, et pourtant, aucune bibliothèque ne pourra contenir les ouvrages dont il est sujet. Il n'a pas fondé d'école, pourtant toutes les universités du monde ne pourront jamais se vanter d'avoir rassemblé autant de disciples. Il n'a jamais exercé la médecine, mais qui donc pourrait dire le nombre de cœurs et de corps, brisés par la souffrance, mais guéris par lui. Il a changé son vêtement royal pour la tenue de l'humble artisan. Par amour pour nous, il s'est fait pauvre, et combien. Il a dormi dans la crèche d'un autre. Il a traversé le lac de Génézareth dans la barque d'un autre. Il a fait son entrée à Jérusalem sur l'âne d'un autre. Il a été enseveli dans la tombe d'un autre. Il est le Christ incomparable et admirable, annoncé par la voix des prophètes des temps anciens. Sa personne est le plus grand miracle de l'histoire de la race humaine. Sur son visage d'homme rayonne la gloire éternelle du Très-Haut. Sur la croix, il meurt d'une mort infâme, lui juste pour des injustes. Il meurt condamné pour que nous soyons libérés de toute condamnation. Il triomphe de la mort et ouvre le chemin de la vie éternelle. Aujourd'hui encore, il est vivant. Il nous aime, il nous appelle. Patiemment, sur les sentiers où nous marchons, son cœur fidèle nous cherche. Aujourd'hui, il voudrait nous entendre l'appeler « mon Sauveur et mon Dieu ». Fin de citation. Voici une manière de tenter de dépeindre Jésus l'unique. Et on relèvera que beaucoup reposent sur le contraste. Et c'est certainement des manières les plus justes d'appréhender Jésus comme l'unique. Il y a toujours chez Jésus plus que ce que ne suggèrent les apparences. Il y a toujours au-delà de ce que l'on croit voir au premier abord. Et cela renvoie à un mystère fondamental le concernant. Ce mystère fondamental, c'est celui de sa personne. Qui est-il vraiment ? Ce Jésus qui a grandi, exercé son ministère, qui est mort sous Ponce Pilate, avant d'apparaître vivant, triomphant de la mort. Le portrait qu'en fait le Nouveau Testament, qu'en font les évangiles, est celui d'un homme réel, un homme réel. C'est comme ça qu'il est apparu. Il est né d'une femme, comme tout autre enfant. Il a grandi, il a mûri, il a eu faim et soif. Il s'est fatigué, il a travaillé. Il s'est réjoui, il a pleuré. Il a connu des émotions réelles et des réactions humaines face à ce qu'il vivait. Il a redouté les difficultés. Il lui a fallu affronter les situations. Il ne savait pas tout à l'avance. Il a eu besoin de la communion avec son Père, du secours de l'Esprit de Dieu, de l'éclairage, de l'Écriture, pour mener à bien sa vie personnelle et son ministère. Un homme, un vrai. Quand on regarde l'ensemble de sa vie, on voit non seulement qu'il était un homme, un vrai, mais on voit aussi chez lui un magnifique visage de l'humanité. Une humanité où l'homme est rempli d'amour pour Dieu et pour les autres hommes. Une humanité généreuse, sensible, disponible, ouverte, droite, heureuse en Dieu et parmi les humains, et qui ne cède jamais au mal, à ses bassesses, à ses détours, à ses coups tordus. Pendant la vie de Jésus, cette belle humanité est le trait principal qui a frappé chez lui. Pourtant, dans ses paroles et dans certains de ses actes, Jésus laisse entrevoir un mystère bien plus profond de sa personne. Il parle de sa relation avec son Père comme d'une relation particulière. Il dit « Je vais vers mon Père et votre Père ». Et il fait ainsi une différence qualitative entre cette relation qu'il a lui et celle qu'ont les autres avec le Père. Il fait des choses que Dieu seul a le droit de faire, comme pardonner les péchés, et il revendique la possibilité, le droit de le faire. Il dit aussi agir comme Dieu, comme le Père agit, de même moi j'agis. Il dit connaître le Père et être connu de lui dans une réciprocité totale. Une réciprocité totale, qui peut le dire? À cause de cette réciprocité, il affirme qu'il révèle le Père de manière unique. Il dira même « Qui m'a vu a vu le Père ». Il met aussi sa parole avec autorité sur le même plan que la loi donnée par Dieu à Moïse. Il dit que ses paroles subsisteront même si le ciel et la terre passaient. Il se présente comme celui qui jugera les nations au dernier jour. Ça, c'est Dieu seul qui le fait. Il s'applique des titres et des images qui généralement désignent Dieu, le berger, l'époux, le Seigneur, le roi. Cela fait beaucoup. Cela fait beaucoup. Et tout cela, Jésus le dit, Jésus l'exprime. Et pourtant, jamais Jésus ne fanfaronne. Ce qu'il dit sonne juste. C'est en phase aussi avec les miracles qu'il accomplit. Certains s'opposent, il se fait l'égal de Dieu. Mais la plupart sont impressionnés par la vérité qui se dégage de la personne, de la manière d'être, de la vie de Jésus. Des paroles donc qui renvoient à plus profond que l'apparence. Première. La lumière, la pleine lumière, viendra d'où on ne l'attendait pas. Jésus meurt d'une mort ignominieuse, injuste, qui semble devoir enterrer définitivement toute prétention le concernant. Alors certes, son attitude dans les souffrances force l'admiration, mais le constat de la mort est là, impressionnant, définitif, et il semble que tout s'arrête. Mais voilà qu'au matin du troisième jour, c'est le bouleversement, le grand renversement. Il est vivant, il apparaît à plusieurs, il a triomphé de la mort, il l'atteste à maintes reprises, de bien des manières. Puis ses disciples le voient, non pas mourir à nouveau, mais s'élever au ciel. Une fois qu'il est là du ciel, il continue d'agir, il envoie l'Esprit, il soutient les siens, il change des vies. Et tout cela impose une autre lecture de sa vie, de sa personne. Ce Jésus, si authentiquement humain, est aussi bien plus qu'un homme. Ce qu'il laissait entendre devient une vérité à recevoir en pleine lumière. Jamais le Père n'aurait authentifié en le ressuscitant un charlatan, quelqu'un qui aurait prétendu des choses qu'il n'était pas. Jésus est bien ce qu'il disait être, l'envoyé de Dieu qui vient du ciel. Mieux, il est Dieu lui-même venant vers nous, Dieu nous aimant, Dieu nous rejoignant, Dieu ouvrant pour nous un chemin de réconciliation avec lui-même. Pour faire cela, il s'est abaissé, mais il a été élevé ensuite après sa résurrection et son ascension. Il est désormais Seigneur. Et que voit-on ? Juste après qu'il soit remonté au ciel, on voit des hommes, des femmes qui prient Jésus, des hommes, des femmes qui invoquent son nom, et c'est une pratique courante. Le Père et notre Seigneur Jésus-Christ sont mis sur le même plan, béni soit le Père et notre Seigneur Jésus-Christ, sur le même plan. On discerne en Christ la parole et la sagesse de Dieu, le Créateur de toutes choses. On l'identifie avec la parole qui était au commencement, celle qui était éternellement avec Dieu, qui était Dieu. Et qui tient un pareil langage de Dieu qui vient, de Dieu qui est là, de prier de cette façon? Est-ce que ce sont des hindouistes pour qui le divin est partout, pour qui le divin se diffuse dans une multitude de divinités qui fait qu'il y en a une, deux, trois, dix, c'est pareil? Non. Ce sont des Juifs qui font cela, qui prient Jésus, qui invoquent son nom. Des Juifs qui, toute leur vie, ont appris, ont confessé, ont mis leur fierté à dire « L'Éternel, notre Seigneur, l'Éternel est un. L'Éternel, notre Seigneur, est l'unique Seigneur. » Ils le savent, le Seigneur, ce Seigneur-là, ne donnera jamais sa gloire à un autre. Les premiers chrétiens, du fait de leur arrière-plan juif, étaient à cet égard aussi catégoriques que les musulmans aujourd'hui. Un seul Dieu, point barre. Mais ce qu'ils ont discerné en Jésus, par ses paroles, authentifiées par sa vie et sa résurrection, cela les oblige désormais à penser autrement cette unité de Dieu. Elle est riche de diversité. Elle est riche de communion. De toute éternité, le Dieu un et unique est Père, Fils et Saint-Esprit. Celui qui est en Dieu de toute éternité, le Fils éternel, la parole éternelle, peut s'abaisser et entrer par amour dans les limites de notre humanité pour lui révéler le vrai visage de Dieu et la sauver. Comment alors dire le mystère de la personne unique de Jésus ? Ah, ça c'est maintenant le travail des théologiens. Les théologiens chercheront un langage précis. Alors ils parlent de nature, ils parlent de personne. Je résume très brièvement. Nous possédons tous la nature humaine. Mais chacun de nous fait vivre cette nature humaine d'une manière particulière, d'une manière unique. Ça, on peut tous le comprendre, on le voit, il suffit de nous regarder. Chacun de nous fait vivre la nature humaine d'une manière unique, d'une manière singulière. Et la personne, c'est cela. Une personne, entre autres, c'est cette manière particulière et unique de faire vivre une nature. Qu'en est-il de Jésus ? Jésus a eu deux natures bien articulées. Il était pleinement Dieu, pleinement homme. Mais ces deux natures se sont exprimées en une personne. Elles se sont manifestées en lui dans l'unité d'une personne humaine. Ce qui veut dire que, par exemple, Jésus a eu des ressources potentielles qu'il n'a pas utilisées. De par sa nature divine, la nature divine possède l'omniscience. Jésus, en tant que personne, n'a pas utilisé des ressources qu'il possédait. Il ne fallait pas que la nature divine vienne noyer la nature humaine et faire en sorte que la personne ne soit plus une personne humaine. Ses capacités étaient là, il en avait conscience, mais en tant que personne humaine, il n'y avait pas recours. D'un autre côté, lorsque Jésus faisait vivre les qualités morales qui étaient celles de Dieu, c'est de manière humaine, c'est dans la réalité concrète des limites d'une personne humaine qu'il l'a fait. Et lorsque Jésus, à la croix, souffre l'abandon du Père, c'est dans sa conscience personnelle qu'il est abandonné. Ça ne veut pas dire que la nature divine a quitté Jésus à ce moment-là, c'est plutôt que la nature divine s'est faite totalement silencieuse à la conscience personnelle de Jésus. Vous voyez là, il y a là un mystère, bien sûr, que l'on peut tenter seulement d'approcher, qui reste un mystère, une profondeur, une synthèse unique. Mais ce mystère donne toute sa richesse à l'œuvre de Jésus. Il est vraiment Dieu fait homme, Dieu venu vers nous. Quand on le voit humblement naître dans une étable, ce n'est pas juste un bébé humain qui naît dans des conditions modestes. Ce n'est pas juste ça, c'est Dieu qui s'abaisse jusque-là. Quand on le voit mourir pour nous à la croix, ce n'est pas juste un homme qui meurt pour d'autres, c'est Dieu lui-même qui prend sur lui le châtiment qui nous donne la paix. Et quand on pense à son rôle de médiateur, il fait parfaitement le pont entre Dieu et les hommes, pleinement Dieu, pleinement homme. Comment mieux faire le pont ? Dieu est venu jusqu'à nous au point d'entrer dans notre humanité. Comment être plus proche ? Nul besoin de Marie ou de quiconque pour plus de proximité. Et surtout, c'est Dieu qui fait le mouvement vers l'homme, et non pas l'homme qui s'autoproclame Dieu. Et cette merveille du mouvement de Dieu vers nous, elle porte un nom, la grâce vertigineuse de Dieu. Jésus, l'unique, c'est cela, l'amour vertigineux de Dieu pour nous.
S'il y a un sujet théologique qui rapproche le plus la théologie chrétienne de la théologie musulmane, c'est bien Jésus. Et paradoxalement, c'est aussi le sujet qui sépare le plus ces deux théologies. Et dans mon intervention, je vous proposerai dans un premier temps de regarder la vie de Jésus telle qu'elle a été présentée dans le Coran, telle qu'elle est présente dans le Coran. Et dans un deuxième temps, je vous proposerai un point de divergence profond. D'abord un point de convergence et après je terminerai par un point de divergence. Si vous voulez aller plus loin dans cette réflexion pour la comparaison entre l'enseignement du Coran et de la Bible sur un certain nombre de sujets importants, il y a le livre de Georges Moukari, qui était un ancien membre de l'Église du Tabernacle, très bien écrit, avec beaucoup de sincérité spirituelle et aussi intellectuelle. Et si vous voulez simplement regarder certains sujets importants de l'islam, là il y a un dictionnaire du Coran qui est très très bien fait, publié en 2007 sous la direction d'un certain Mohamed Amir Al-Mouazi, Donc c'est vraiment un très bon ouvrage pour regarder certains sujets, pour avoir une idée plus précise de certains sujets dans le Coran. Si l'Évangile, comme on vient de le voir, présente Jésus avant tout comme fils de Dieu, le Coran présente systématiquement Jésus comme fils de Marie, Aïssa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie. Jésus et Marie jouissent d'une place importante dans le Coran et plusieurs sourates leur sont consacrées. Ce titre de fils de Marie peut être compris comme une volonté de présenter la nature, uniquement la nature humaine de Jésus, sans aucun lien avec la divinité. C'est une manière, entre autres, de mettre fin à la conception chrétienne qui est véhiculée alors. Et en même temps, il faut souligner que dans cette culture-là, la culture arabe à l'époque, lorsqu'on présente les enfants fils de leur père et non pas fils de leur mère, donc en présentant Mohammed par exemple, est présenté Mohammed fils de Ibn Abdullah, donc fils de Abdullah. Et pour Jésus, le fait de le présenter fils de sa mère, donc ils veulent aussi, le Coran veut marquer la particularité de Jésus. En effet, le Coran reconnaît la naissance miraculeuse de Jésus, sans l'intervention d'un homme. C'est Dieu, c'est un don de Dieu, le Coran 19. Cette conception miraculeuse est comparée à la création d'Adam, Adam considéré comme le premier prophète dans la tradition musulmane. Et toujours dans le Coran 19, lorsqu'il est question de la naissance de Jésus, deux choses sont précisées concernant Jésus. La première, c'est que Jésus n'est pas fils d'Allah, n'est pas fils de Dieu. Et la deuxième, c'est que la conception de Jésus est à mettre en parallèle avec la création d'Adam. Et pour cela, il reprend la même expression, « Dieu dit soit et la chose est ». En plus de la conception miraculeuse, Jésus, selon le Coran, est né sans péché, pur comme sa mère. Tous les deux, Jésus et sa mère, sont préservés de démons déchus, maudits, que rencontre tout enfant à sa naissance. Abu Huraira, l'un des compagnons de Mohammed, rapporte une parole qui remonte au prophète en disant « J'ai entendu l'envoyé de Dieu dire « Aucun descendant d'Adam ne naît sans que Satan le touche au moment de sa naissance, en sorte que le premier cri qu'il fit entendre est un cri sous le toucher de Satan, sauf Marie et son fils qui ont fait l'exception à cette règle. » Donc, tout enfant à sa naissance est touché par Satan, donc né impur, excepté Marie, Jésus. Et par la suite, il y a un autre texte coranique qui précise aussi que Jean-Baptiste est né sans être touché par Satan, donc pur. Tous les prophètes dans le Coran, y compris Mohammed, ont demandé pardon à Dieu, soit Dieu leur a annoncé qu'il aura pardonné leur péché. Jésus est le seul à être déclaré pur, parce qu'il est né pur et il demeurera tout au long de sa vie pur, sans commettre de péché dans le Coran, à cause ou grâce à l'esprit de sainteté ou l'esprit saint. Tout simplement parce que le Coran lui-même dit, Dieu voulait garder, il donnait cela comme un signe pour les croyants. Donc en plus de naître pur, Jésus a parlé dès son berceau, d'une part pour justifier Marie face aux accusations qu'elle rencontre parce qu'elle vient d'avoir un enfant sans être mariée, et d'autre part aussi pour authentifier qu'il est vraiment le messager de Dieu. Le Jésus-enfant est doté de facultés extraordinaires, des pouvoirs surnaturels, comme par exemple, il souffle sur un oiseau qu'il vient de faire en argile alors qu'il était juste petit, hein. Il souffle sur ce oiseau et l'oiseau commence à prendre vie. On retrouve aussi ce genre d'histoire dans les évangiles apocryphes, notamment dans le pseudo Matthieu. Ou encore, il demande à un palmier, tout au début, sa mère, il était loin avec sa mère, il demande à un palmier de descendre pour, donc, de s'abaisser pour que sa mère puisse prendre les dattes. Toujours enfant, il avait un savoir immense, car il reçoit son enseignement de Dieu lui-même, il a reçu l'enseignement de la Torah et l'évangile directement de Dieu, sans intervention de quiconque. Devenu adulte, Jésus est béni, il est soutenu par l'esprit de sainteté, l'esprit lui permettant d'une part d'avoir accès à la science divine, une science inexprimable, et d'autre part, de n'avoir jamais transgressé la loi divine durant sa vie. Le Jésus coranique a accompli aussi beaucoup de miracles, des guérisons, des résurrections, et même il fit descendre une table du ciel pour nourrir ses apôtres. Probablement il y a une allusion ici à la scène. Les commentateurs musulmans font remarquer que tous les miracles que Jésus a accomplis sont accomplis d'une manière isolée par d'autres prophètes, mais seul Jésus a réussi à les accomplir tous ensemble. Quant à sa prédication, d'après le Coran, elle reste un échec, parce que les Juifs n'ont pas cru en lui, et suite à ce rejet, à cette résistance, Jésus s'est concentré uniquement sur ses apôtres. Les Juifs n'ont pas seulement rejeté le message de Jésus, mais ils ont voulu aussi le crucifier. Mais Dieu est intervenu, et il est intervenu, et il les en a empêchés. Le Coran n'est pas vraiment clair sur la manière dont Dieu les a empêchés. Il y a trois pistes qui sont annoncées pour expliquer cela. La première, Dieu aurait donné un sosie, a fait un sosie de Jésus, et du coup les juifs ont crucifié ce sosie et non pas Jésus. Certains textes coraniques parlent d'illusion par laquelle Dieu a frappé tout le peuple, tous les juifs qui voulaient tuer Jésus. Et enfin, une dernière piste avance que Jésus était au milieu, entouré de ses disciples, et au moment où Dieu l'élevait au ciel, l'un de ses disciples a pris l'apparence de Jésus, et du coup c'est l'un des disciples qu'on a crucifié. Et ce disciple, souvent, on l'identifie à Pierre. En tout cas, pour le Coran, ce qui est sûr, Jésus n'a pas été crucifié, mais il a été enlevé au ciel du milieu de ses disciples. Jésus reviendra à la fin des temps, au jour de jugement, avec le Mahdi, le 12e imam, attendu par tous les musulmans, surtout les chiites. Et au retour de ce Mahdi, de Jésus, il y aura donc le jugement. Et Jésus témoignera contre les juifs et les chrétiens qui l'ont divinisé. Et puis il donnera enfin le sens caché de la révélation de l'histoire de l'humanité. Donc Jésus est présenté dans le Coran comme conçu par l'ange de Dieu, né pur, accompli des miracles, enlevé par Dieu, reviendra à la fin des temps. Après ce survol, maintenant, il convient de parler de quelques convergences, et je me contenterai bien sûr à une seule, et je pense que c'est celle qui revient le plus souvent dans les discussions, dans le dialogue avec les musulmans, c'est Jésus, parole de Dieu. Jésus est déclaré parole de Dieu à trois reprises dans le Coran. Les deux premières fois, c'est lorsque l'ange révèle à Marie qu'elle allait avoir un fils, et par l'intervention de Dieu. Et la deuxième fois, c'est dans un autre texte, dans le Coran 4, où Jésus porte aussi ce titre de parole de Dieu. Ce titre dans le Coran est utilisé exclusivement pour Jésus. Aucun autre prophète, y compris Mohammed, n'a eu le droit à ce privilège, n'a eu le droit de bénéficier de ce titre. Pour certains théologiens musulmans, si Jésus est appelé parole de Dieu, c'est parce qu'il est pur. Il est vrai que Jésus, comme je le disais tout à l'heure, est né pur. Mais il n'était pas le seul à naître pur. Il y avait sa mère, Marie, mais aussi il y avait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était né pur. Et lorsqu'on demande aux théologiens musulmans pourquoi Jean-Baptiste n'a pas été déclaré parole de Dieu, par exemple, ils ne répondent en fait Jésus a acquis, est appelé parole de Dieu, non pas par la pureté reçue à sa naissance, mais par la pureté acquise pendant sa vie. Mais lorsqu'on regarde les titres, le titre de Jésus, parole de Dieu, on se rend compte qu'il a été donné à Jésus dès sa naissance, avant même sa naissance, lors de la conception. Donc ce n'est pas à la fin de la vie de Jésus que le titre de parole de Dieu lui a été attribué, mais avant même sa naissance. Donc il me semble là, il y a quelque chose qui n'est pas vraiment très... Enfin, les explications avancées jusqu'à maintenant ne sont pas très satisfaisantes. Et du coup, pour nous chrétiens, il me semble que nous pouvons partir sur cette base-là et de les inviter à lire l'évangile de Jean, entre autres le premier chapitre de l'évangile de Jean, qui permet peut-être de dire pourquoi Jésus, entre autres, est donc parole de Dieu. Et nous pourrions bien sûr faire pareil pour la déclaration Jésus est esprit de Dieu, Jésus est le prophète de Dieu, Jésus est le Messie. À plusieurs fois, ça revient régulièrement, le Messie à 11 fois que ça revient dans le Coran. Et j'ai toute une liste, si vous êtes intéressé, je pourrais vous faire une photocopie de tous les titres portés par Jésus et qui se retrouvent aussi, donc, aussi bien dans le Nouveau Testament que dans le Coran. La deuxième donc, chose que je voudrais évoquer ici, c'est la divergence entre les deux conceptions. Et bien sûr, l'une des divergences qui revient régulièrement, c'est Jésus, fils de Dieu. Comment se fait-il que Jésus, fils de Dieu ? Comme je disais tout à l'heure, le Coran ne reconnaît aucun statut divin à Jésus. À vrai dire, cette difficulté est aussi rencontrée par les Juifs. Si on regarde l'évangile de Jean au chapitre 5, lorsque les Juifs ont voulu tuer Jésus, c'est au moment où Jésus leur a dit que Dieu était son père. Et il se faisait ainsi donc égal de Dieu. Pour les musulmans, l'idée que Dieu puisse avoir un fils est blasphématoire parce que selon eux, Dieu ne peut enfanter et par conséquent ne peut avoir d'enfant. Et le texte coranique le plus avancé régulièrement dans la discussion, c'est le Coran 112. Mais pas seulement, c'est un dogme théologique qui revient régulièrement dans le Coran sur l'unicité de Dieu. Comment comprendre d'abord ce texte ? Il faut considérer ce texte dans son contexte, lorsqu'il a été donné à Mohammed. Les Arabes à l'époque, en particulier Mekois, ceux qui sont à la Mecque, adoraient trois divinités. C'est des divinités, il y avait, c'est des femmes, hein, donc, enfin, c'est des divinités, Lat, Uzza et Mana, c'est dans le Coran 53, qu'on les retrouve au verset 19 et 20. Et lorsque Mohammed vient, il enseigne principalement que Dieu n'a pas plusieurs divinités, que Dieu est unique. Et du coup, l'unicité de Dieu devient un sujet fondamental dans tout l'enseignement de Mohammed. C'est ce qu'on appelle l'ishrak. Donc, il n'y a pas d'associationnisme en Dieu. Il ne faut pas donc associer quelqu'un à Dieu. Mais il faut noter que Mohammed, la première fois qu'il avait donné ce texte, c'était pour contrer la conception arabe de l'époque sur la divinité. Donc, il adorait ces trois divinités. Mais une fois que Mohammed est revenu à Médine, donc il était à la Mecque, il est parti à Médine, après il est revenu à la Mecque vers la fin de sa vie, il s'attendait à ce que les Juifs et les chrétiens reconnaissent l'autorité de ses écrits. Mais les Juifs et les chrétiens n'ont donné aucun crédit à son enseignement, ils ne voulaient pas reconnaître sa parole comme venant de Dieu. Et de ce fait, Mohammed a commencé à utiliser ses textes initialement contre l'idolâtrie, contre les chrétiens et les juifs, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à utiliser notamment le Coran 112 contre les chrétiens. Ça permet de comprendre le contexte dans lequel il est dit. Maintenant, il faut revenir à la question de Jésus, fils de Dieu, que répondre éventuellement à nos amis musulmans. D'abord, je pense qu'il faut enlever un malentendu. Pour les musulmans, lorsqu'ils vous parlent de fils de Dieu, ils conçoivent davantage père, fils et mère que père, fils et Saint-Esprit. Donc il faut d'abord clarifier que nous n'avons pas affaire dans la Trinité à Père, Fils et Mère. Nous avons affaire à Père, Fils et Saint-Esprit. Une fois que le malentendu est écarté, je pense qu'il y a l'enseignement sur la divinité. Dans la conception musulmane, Dieu est un et l'unicité de Dieu est une unicité unitaire. Il n'y a pas d'autres unités. Or, dans la conception biblique, l'unicité de Dieu est une unicité trinitaire. Père, Fils et Saint-Esprit. Et le fait de parler de trois personnes n'exclut pas que Dieu soit un. Et le fait que Dieu soit un aussi n'exclut pas qu'il y ait donc qu'il soit Père, Fils et Saint-Esprit. En tous les cas, sur l'unicité de Dieu, je pense que le Coran n'a rien à apprendre aux chrétiens, à ceux qui se revendiquent du livre, dans la mesure où Thierry a rappelé tout à l'heure, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est un, et Jésus, avant de dire le premier commandement, de rappeler tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur, etc., il rappelle d'abord que le Seigneur est un. Donc la Bible enseigne l'unicité de Dieu. Je pense le Coran n'est pas le premier à ramener ce sujet de discussion. Mais simplement, la Bible, donc là, nous avons une différence dans notre conception de Dieu. Nous avons une conception trinitaire et eux, ils ont une conception unitaire. Et je pense qu'il faut les aider à comprendre et ils pourront éventuellement arriver à comprendre. Pour terminer, je voudrais laisser juste une petite recommandation. C'est de dire d'abord dans notre témoignage auprès des musulmans, évoquer d'abord les sujets d'entente sur lesquels on peut échanger. Et une fois, bien sûr, que la confiance est installée, une fois la relation est bien établie, là, par contre, je pense qu'il faut y aller plus loin. Évoquer aussi les sujets qui fâchent, évoquer ce qui est réellement Jésus, car seul le Jésus de l'Évangile sauve.
Je commencerai par une parole hors sujet. un peu légère, ça vous détendra peut-être. Savez-vous que le tabernacle a inventé la machine à remonter le temps? Si vous regardez la pendule qui est ici sur le pilier au-dessus du piano, vous verrez que les aiguilles tournent, mais elles tournent en sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous allez pouvoir voir tout à l'heure, quand je suis monté à cet étage tout à l'heure par l'escalier, c'était 9h17 sur la pendule. Et maintenant, c'est 9h25. Alors, si vous vous demandez pourquoi nous, prédicateurs, nous avons l'impression de prêcher très brièvement, alors que vous n'avez pas tout à fait la même impression, vous voyez, l'explication vous est donnée. Je vais tenter, en suivant ma montre alors, de ne pas utiliser tout le quart d'heure qui m'est imparti pour qu'il y ait le temps de quelques questions. Il me semble que c'est souhaitable. En tout temps, la foi, c'est un combat, le bon combat de la foi, parce que le monde est animé par le père du mensonge qui séduit, subjugue un très grand nombre par le moyen de ces mensonges. Le témoignage à la vérité de Jésus notre Seigneur, Jésus l'unique, rencontre donc toujours des obstacles dans le monde. Mais les obstacles varient d'une époque à une autre. Et je me concentrerai sur les deux obstacles qui me semblent les plus fréquemment opposés à notre témoignage lorsque nous essayons de le rendre, avec quelques indications sur la manière de faire face, sachant bien que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La première très grande difficulté, me semble-t-il, quand nous parlons de Jésus, notre Seigneur, c'est le doute jeté sur la vérité historique des évangiles, de tout ce que la Bible nous révèle de lui. Il y a une double offensive qui est très présente dans nos médias et qui atteint nos contemporains, qui s'attaque au fondement de la certitude. C'est vraiment comme ça, c'est vraiment arrivé. Il y a deux formes principales. La première, c'est celle des œuvres dites de fiction, qui trouvent le prétexte dans la liberté artistique d'imaginer ce qu'on veut, des romans ou des films, qui mettent en scène Jésus et qui déforment radicalement ce qui est vrai de lui. Cela touche, je pense, un grand nombre autour de nous. Ils savent bien que c'est un roman, que c'est un film, mais en même temps, la frontière entre le virtuel et le réel tend à s'effacer. De toute façon, c'est un trait de notre situation culturelle que cette perte du sens de la différence entre le réel. Les images sont tellement trafiquées, l'imaginaire a tellement les couleurs de la réalité qu'on ne sait plus très bien, que les gens perdent le temps. D'ailleurs, on dit en temps réel, en temps virtuel, en fait, les expressions même qu'on emploie ne sont pas tout à fait exactes à ce sujet. Et puis la deuxième forme de l'offensive, c'est des productions qui se prétendent scientifiques, qui se parent de l'allure, de l'objectivité, de la rigueur d'un savoir établi. Il y avait eu, il y a quelques années, une série d'émissions sous le titre Corpus Christi à la télévision. Et ces émissions s'attaquent très, très radicalement à la véracité des textes évangéliques. J'ai eu l'occasion, c'était lors d'une université d'été à la faculté, de voir et de démonter avec d'autres ces émissions Corpus Christi, voir exactement les procédés de manipulation qui sont très au point. D'une part, ils utilisent des déclarations de savants patentés, de théologiens, dits chrétiens, qui enseignent dans des universités, mais qui ont depuis longtemps abandonné plusieurs des points essentiels de la foi chrétienne. Alors bien sûr, ils en profitent, ils les citent, et en plus alors ils les citent quand même de manière partielle. Ils sélectionnent les paroles les plus négatives et ils en font un tissu qui est extrêmement mensongers. Je pense que la première chose à faire pour nous, c'est de ne pas nous laisser impressionner. Nous n'avons pas à être intimidés. Il y a des gens qui se prétendent très compétents. Il y a des gens qui ont les titres, oui, mais c'est comme le négationnisme. Vous savez que vous avez des gens très compétents qui ont tous les titres et qui nient l'existence des chambres à gaz, qui nient que le régime hitlérien ait détruit la vie de cent de millions d'individus. Rien n'y fait, ils ne veulent pas le savoir. Et je crois que nous sommes en présence de quelque chose qui est très semblable, mais qui, malheureusement, touche bien davantage de gens. Alors, comment répliquer ? Donc, ne pas nous laisser intimider de notre côté, et nous référer aux travaux d'auteurs qui ont autant de titres et qui ont défendu tout à fait la véracité des textes bibliques. Il y en a aussi. Il y en a dans les rangs des chrétiens évangéliques, mais qui ont tous les titres, et il y en a même qui ne sont pas évangéliques, mais qui ont quand même assez de droiture et de sobriété pour avoir des vues claires sur le sujet. Je sais que ce mois-ci sort un ouvrage d'un historien vulgarisateur, mais qui a l'air sérieux. Je n'ai pas vu l'ouvrage, mais j'ai vu deux articles le concernant, qui me semblent un bon antidote par rapport à ces attaques. Il s'agit d'un ouvrage intitulé « Jésus » de Jean-Christian Petit-Fils, près de 700 pages. Ça a l'air d'être un travail sérieux. Il n'est pas seul, mais voilà, je vous signale, c'est peut-être utile, même pour le témoignage, qu'un ouvrage pareil paraisse. Et puis, je recommande de soutenir les savants évangéliques en particulier qui accomplissent la tâche de réfutation de ces idées mensongères. C'est très coûteux, ça leur coûte parfois tout leur crédit académique parce que les autres ne sont pas contents. Et puis, c'est beaucoup de travail, c'est lourd, mais il faut les soutenir. Ce n'est pas spécialement sur l'histoire de Jésus, mais pour l'Ancien Testament, mais tout est lié, hein, parce que c'est la véracité de la Bible, que notre frère Mathieu Richel travaille de cette façon. Alors, il s'agit de soutenir, par la prière, aussi d'ailleurs par les dons à la faculté. C'est un premier aspect. Voilà une attaque contre laquelle il nous faut nous armer. Deuxième grande attaque, c'est le relativisme qui passe pour tolérance. Vous savez, nous vivons dans une situation de pluralité religieuse, philosophique et même ethnique et culturelle, comme pratiquement jamais dans l'histoire. Et cette pluralité est un fait, mais beaucoup de gens la glorifient comme une chose admirable sous le nom de pluralisme. La pluralité, c'est qu'il y a diverses religions qui se côtoient. Le pluralisme, c'est qu'on dit c'est magnifique, c'est très bien. Et ce pluralisme entraîne très souvent le relativisme. Il n'y a pas de vérité absolue. Relatif, c'est s'oppose à absolu. Finalement, à chacun sa vérité. Ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne quelque chose de plus pour affronter les difficultés de la vie, voilà, c'est votre vérité. À chacun sa vérité, c'est relatif à votre point de vue, à vos goûts. Alors, Jésus, mais oui, c'est votre vérité. Mais pour d'autres, c'est Bouddha. Pour d'autres, c'est Mahomet ou Mohamed. Pour d'autres, c'est peut-être Gandhi ou c'est Moon. Chacun sa vérité. Alors, que faire face à ce pluralisme relativiste qui nous environne et qui touche un très grand nombre de gens? D'abord, il me semble qu'il nous faut nous efforcer de ne pas apparaître d'emblée sectaire, simplement intolérant. Cette idée de la tolérance qui est répandue est une idée corrompue et fausse, mais faisons attention, n'apparaissons pas dans le premier abord comme intolérant. Reconnaissons qu'il y a des éléments de vérité dans toutes les religions. Et si, par exemple, la naissance virginale de Jésus a été reconnue par le Coran, bien c'est une vérité que le Coran même a reconnue. Il y a des éléments de vérité. Nous pouvons relever la noblesse des intentions des fidèles d'autres religions. C'est parfois exemplaire dans la piété. Il y a une sorte de crainte de Dieu. L'apôtre Paul disait bien de ces juifs, de ces chefs juifs qui avaient crucifié Jésus et dont il montre bien qu'ils ne pouvaient pas être sauvés, qu'ils ont du zèle. Ils ont du zèle, dit-il, Épître aux Romains chapitre 10, verset 2. Mais sans intelligence de la vérité de Dieu. Il y a pour nous un acte de reconnaissance de ce qu'il y a d'admirable. Par exemple, il y a des croyants musulmans, hein, je fais encore le lien avec ce qu'a dit M. Areski, qui vraiment sont très, très, très admirables de respect de la divinité. Et souvent, ce qui les choque dans notre société, mais ce sont des choses qui devraient nous choquer aussi, cet étalement pornographique partout, cette légèreté blasphématoire. Donc, voilà, reconnaître qu'il y a des choses positives. Ensuite, essayer de réveiller le sens de l'alternative vrai ou faux, de son importance. Dans la Bible, il n'est pas question d'héros de romans qu'on aime plus ou moins, à chacun le héros qu'il préfère. Il s'agit de questions de réalité et il y a des conséquences dramatiques si c'est vrai ou si c'est faux. Tout le monde sait bien quand même qu'entre deux flacons, si l'infirmière se trompe, c'est la vie ou la mort. Et même si les flacons se ressemblent beaucoup, même s'il y a des ressemblances superficielles, alors essayez de réveiller ce sens-là. Vrai ou faux, ça compte. Puis, une fois qu'on a pu faire un pas dans ce sens, souligner alors l'extraordinaire unicité de Jésus, ce que M. Husser a fait ressortir. Il est tellement différent. Alors, avec lui, on ne peut pas faire simplement une différence de degré avec d'autres. Ses prétentions ont été telles que, ou bien, ça a été un imposteur, le plus fou et imposteur que tous les fous et imposteurs de l'histoire, ou bien il a été vraiment ce qu'il a dit. Mais il n'y a pas de milieu entre ces deux possibilités face à l'unicité des prétentions de Jésus. Alors, comment décider? Alors, il y a toute une foule de données à mettre en valeur, mais je pense qu'on peut dire que la pointe, c'est la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus. L'apôtre Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, c'est du vide, ça compte pas. Nous sommes finalement de faux témoins. Tout ce que nous avons ici, tout ce que nous sommes, ça ne vaut rien si Jésus n'est pas vraiment ressuscité. Mais si Jésus est vraiment ressuscité, alors c'est lui seul qui est le chemin, la vérité, la vie. Il est ce qu'il a dit être, et il est notre Sauveur et Seigneur, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Voilà deux grandes difficultés que nous rencontrons pratiquement tous les jours. Voilà deux ou trois suggestions sur la manière de faire face. Je pense qu'il y a le temps, mais sous la présidence de notre pasteur, pour quelques dialogues et questions.